Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, je fais le pari de vous passer les 6 morceaux clés de l'album Layla and Other Assorted Love Songs de Derek and the Dominos. Donc de vous passer les 6 morceaux clés de cet album. Encore que pour moi, les 14 chansons sont indispensables. Donc je limiterai mes propos au strict minimum pour permettre un maximum de disques. Tout ça, c'est dû à la longueur des morceaux qui est un petit peu supérieure à ce qu'on fait d'habitude. Pour en revenir à cet album qui est paru en 1970, il faut retenir que c'est un album de blues rock avec Eric Clapton évidemment en tête d'affiche, même s'il a tout fait pour ne pas apparaître. Et il est avec son groupe Derek and the Dominos. Il est souvent considéré, cet album, comme l'un des meilleurs de l'histoire du rock et un sommet dans la carrière d'Eric Clapton. Mais tout ne fut pas évident pour en arriver là. Jusque-là, Clapton, cherchant toujours à échapper au Star System, surtout après l'échec de Blind Faith, qui était son supergroupe, et de son premier album solo, qui n'a pas répondu aux attentes, eh bien, Eric Clapton ne veut pas mentionner son nom sur la pochette de l'album. La conséquence sera un échec commercial, car personne ne sait qui a fait cet album. Dans le groupe, on retrouve Bobby Woodlock au clavier, rencontré au sein de Delaney et Bonnie, avec lesquels Eric Clapton a tourné un temps. Le bassiste de Gigi Cale, encore méconnu, Carl Radle, dont l'influence sur Eric Clapton sera très importante. Et Jim Gordon, le batteur, lui aussi venant de Delaney et Bonnie. Le coup de poker est l'arrivée de Duane Allman, que Clapton, se trouvant à Miami pour enregistrer avec son groupe, rencontre lors d'un concert de l'Allman Brothers Band et embauche aussitôt Duane Allman pour jouer avec lui sur l'album. Duane assurera la guitare slide sur le disque et sera co-compositeur avec Jim Gordon et Eric Clapton de Layla, la chanson phare du LP. Je précise que le producteur est Tom Dowd, le producteur de l'Allman Brothers Band, organisateur de la rencontre. La pochette de l'album est un tableau du peintre Franzen de Schoenberg, appelé La fille au bouquet, et découvert par hasard dans l'atelier du peintre et que les musiciens adoptèrent. En effet, Eric a immédiatement repéré une ressemblance entre la femme blonde qu'il a décrite et Patty Boyle, l'épouse de George Harrison, qu'il aime secrètement. Clapton a également insisté pour que l'image soit sans indication du nom du groupe ou du titre de l'album. Vous comprenez maintenant pourquoi personne au départ ne savait qui avait fait ce fameux album. Le premier morceau que je vais vous présenter s'appelle « Bell Bottom Blues ». C'est une chanson écrite par Eric Clapton et Bobby Whitlock. Elle traite de l'amour non partagé d'Eric Clapton pour Patty Boyd, la femme donc de son ami George Harrison. Publiée en single, avec en face B « Keep on Growing » qui est aussi sur cet album, la chanson atteindra seulement la 91e place sur le Billboard Hot 100 de l'année 1971. Plus tard, une réédition, cette fois avec Little Wing en face B, atteindra une meilleure place, mais de justesse, la 78e. Bell Bottom Blues a été enregistré avant que Duane Allman ne rejoigne les sessions d'enregistrement de l'album, dont Eric Clapton est le seul guitariste de la chanson. Clapton compense ceci en jouant plusieurs parties de guitare, y compris un solo rappelant la sensibilité du jeu de George Harrison. Bobby Whitlock joue de l'orgamon. Carl Radle à la basse et à la percussion, et Jim Gordon à la batterie. Y compris, c'est lui qui fait les bruits sur la tabla et la caisse claire à l'arrière du son. Bobby Whitlock chante également des voix d'harmonie à l'occasion dans le morceau. Pour votre info, les bell buttons sont un style de pantalon qui était populaire à l'époque. En France, on appelait ça les pattes d'éléphant. Et selon Clapton, la chanson a été écrite pour Patty Boyd après qu'elle lui ait demandé de lui procurer une paire de blue jeans à cloche, si j'ose dire, aux États-Unis. Et on peut noter dans le chant de Clapton l'espèce d'angoisse brute dans sa voix. C'est le signe de son amour transi.
See me cry across the border, you.
Bell Bottom Blues par Dorex and the Dominos sur OxyWeb Radio. Pour ce soir, la chanson suivante, Gate to the Highway, est un standard du blues, qui a été interprété et enregistré par plusieurs bluesmen. Le pianiste de blues, Charlie Seeger, a d'abord enregistré la chanson en 1940, avant que Jed Gillen et Big Bill Bronzy ne le suivent avec des enregistrements durant les années 40 et 41, en utilisant cette fois un arrangement qui est devenu la norme pour ce type de chanson. Lorsque Little Walter a remis à jour la chanson en 1958, dans le style blues électrique de Chicago, elle est devenue enfin un véritable succès au chart des rhythm and blues. Gate to the Highway est généralement attribué à Charles Chas Seeger, donc, et à William Big Bill Bronzy, qui pourtant n'a été rajouté qu'à la suite. Selon Tom Dowd, l'enregistrement de Gate to the Highway n'était pas planifié. Le groupe auquel Duane s'était joint, donc désormais, a entendu en fait Sam the Sham, qui a enregistré dans un studio voisin, la même chanson. Et ils se sont dit, bah tiens, si on l'a joué. Et ils ont attaqué spontanément ce morceau. Et Tom Dowd, qui se trouvait toilette à ce moment-là, a hurlé à ses ingénieurs de lancer le magnétophone. Et c'est ce qui explique qu'au début, on a une impression de fondu. C'est en fait pour rattraper le démarrage brutal. Gate to the Highway est donc été enregistré live. Enfin, Gate to the Highway fait une des chansons interprétées lors des funérailles de Duane Allman, avec en particulier en présence d'Eric Clapton. C'est dire l'attachement à ce morceau pour ces deux guitaristes.
The key to the highway, down in Battle, keep it going. Well, things move too slow. I'm going back to the bottom. Man away from home. time, you know, I won't be back no more. I got the key, key to the highway. You darling, about to go. Walking is most too slow.
c'était Key to the Highway, ou La clé pour l'autoroute, par Derek and the Dominoes, sur OxyWeb Radio. La chanson suivante, Tell the Truth, a été composée principalement par Bobby Whitlock, et Eric Clapton l'a aidé pour terminer la chanson. Tell the Truth a été enregistré une première fois en juin 1970 avec un tempo plus rapide que ce que vous allez entendre. Puis comme un long morceau, plus lent, pendant l'enregistrement de Layla, et ça c'est celui que vous allez entendre. Et en fait la version finale, c'est un peu un mélange des deux, vous le verrez. Une version antérieure de Tell the Truth a été enregistrée à Londres pendant les sessions pour le triple album de George Harrison, All Things Must Pass, que vous commencez à bien connaître. Mais à l'époque, elle ne fut pas retenue, malgré les contributions à la guitare de George Harrison et Dave Mason, puis la production par-dessus de Phil Spector. Ainsi, produit par Phil Spector, cette version originale se révèle plus rapide et a été publiée en tant que premier single de Derek and the Dominoes en septembre 1970. À 22 ans à peine, Bobby Whitlock écrivit donc Tell the Truth au début de l'été 1970, alors qu'il vivait chez Clapton en Angleterre. Whitlock a travaillé sur la mélodie sur une guitare accordée en mi, ou E pour les anglais, en se rappelant avoir entendu Duane Allman, qu'il connaissait déjà, lors d'un passage avec Delaney et Bonnie and Friends, précédent groupe de Bobby. Clapton et Whitlock, fans de Sam and Dave, un duo célèbre à l'époque, jouèrent le morceau en imitant leur style, basé sur le principe des questions-réponses chères au blues. Ils alternent ainsi leur voix pour le chant, pour respecter ce principe. Enfin, à noter la reprise faite par Ray Charles de cette chanson, que je trouve absolument excellente.
Ooh.
C'était donc Tell the Truth, ou Dites la vérité, par Derek and the Nomino sur OxyWeb Radio. Comme l'indique son titre, c'est un album rempli de chansons d'amour. Et s'il y a bien une chanson d'amour dans cet album, c'est la suivante, Have You Ever Loved a Woman? Avez-vous déjà aimé une femme? Qui est une chanson de blues écrite par Billy Miles et enregistrée pour la première fois par l'artiste de blues américain Freddie King en 1961. La chanson est interprétée comme un blues lent avec la voix et la guitare de Freddie King, accompagnée du pianiste Sonny Thompson, le bassiste Bill Willis et le batteur Philip Paul. J'aime bien rappeler ces versions originales qui quand même ont compté énormément dans l'histoire du blues. Eric Clapton, vous le savez, apprécie beaucoup Freddie King et spécialement cette chanson. Il a enregistré plusieurs versions de Have You Ever Loved a Woman. La première fois fut un live en novembre 1965 alors qu'il était membre de John Mayall and the Blues Breakers. Il y a cette version avec deux Rex et deux Dominos donc désormais et plus tard les enregistrements live qui ont parsemé les albums live d'Eric Clapton. À noter enfin, le Graham Bone Organization a fait une version en modifiant quelque peu les paroles et a repris le crédit à son compte. Mais c'est bien la chanson de Billy Miles dont il s'agit malgré tout. Le rythme lent du morceau permet d'apprécier le jeu des deux guitaristes, Eric Clapton et Duane Allman. Et je vous invite vraiment à y prêter attention et vous vous rendrez compte de la sensibilité du jeu de chacun et en même temps de la sorte de rivalité qu'il se lance perpétuellement tout au long du morceau. Et qui fait que pour moi, cette chanson représente certainement un des moments clés de l'album. Écoutons Have You Ever Loved a Woman? We'll be right back.
Have you ever loved a woman? Yes, and you know you can't leave her alone. Something deep inside of you, I won't let you rain. Your best friend. Oh, 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 oh,
oh. C'était Have You Ever Loved a Woman par Dorex and the Dominoes sur OxyWeb Radio. Eric Clapton, comme Duane Allman, a été des admirateurs de Jimi Hendrix, qui a écrit Little Wing, la chanson suivante. Elle a été enregistrée par Jimi en 1967 et figure sur son deuxième album, Axis Bold as Love. Pour Jimi Hendrix, Little Wing est, avec Spanish Castle Magic, une des rares chansons de l'album Axis Bold as Love à être jouée régulièrement en concert. En effet, les autres titres ont été enregistrés avec des techniques d'enregistrement très difficiles à reproduire sur scène. Et donc, il était impossible pour Jimi Hendrix de les jouer correctement. L'enregistrement de la guitare, en fait, a été fait à partir d'une cabine Leslie, habituellement utilisée avec un orgue Hammond. Et sur scène, Jimi Hendrix utilisait une pédale Univibe, simulant en fait l'effet de Doppler que permettait d'avoir la cabine Leslie. C'est-à-dire cette espèce de son tournant qui était très particulier. Little Wing a été reprise par beaucoup d'artistes, mais notamment Sting, Stevie Ray Vaughan, The Corrs ou encore Santana assez récemment, et tant d'autres. Little Wing pour Dorex and the Dominoes a été enregistré peu de temps avant la mort de Jimi Hendrix. Le plus émouvant pour Clapton est le fait qu'Hendrix n'a pas eu le temps d'écouter la version enregistrée pour l'album Layla, et il espérait, dit Eric Clapton, lui faire un grand plaisir en l'interprétant comme ils l'ont fait, sachant que Duane joue en deuxième guitare sur ce morceau et apporte une contribution tout à fait remarquable.
Thank you.
C'était Little Wing, petite aile, par Dorex and the Dominos sur OxyWeb Radio. Incontestablement, le morceau le plus connu de cet album est bien sûr la chanson Layla, qui est une chanson écrite par Eric Clapton, qui avait réalisé le texte et la musique de la première partie du morceau, et par Jim Gordon, son batteur, qui était aussi un joueur de piano assez talentueux, et qui était l'auteur donc de la fin du morceau. Et c'est Duane Allman qui a trouvé le riff de l'introduction qui a rendu cette chanson si fameuse. Pour la petite histoire, Jim Gordon était en train d'improviser dans un coin du studio pour un album qu'il envisageait de créer plus tard, et écoutant la partie de piano, Eric Clapton chercha à le convaincre de lui refiler cette partie pour l'inclure au morceau Layla, ce que Jim Gordon, après beaucoup d'hésitation, a finalement accepté. Le titre Layla, lui, a été inspiré par l'histoire traditionnelle d'origine persane, intitulée Majnun et Layla, que lui a raconté son ami Yann Dallas, qui était engagé dans un processus de conversion à l'islam. Cette histoire relate en fait un amour impossible qui reflète bien la situation personnelle d'Eric Clapton à l'époque. En effet, pour écrire Layla, Eric Clapton s'est inspiré bien sûr de son amour pour Patti Boyd. C'est une tentative délibérée de lui parler de ses doutes et de son refus de venir à lui. Les parties de guitare sont enregistrées par Eric Clapton et toute la partie slide par Duane Allman. C'est assez important. Pour revenir à la tableau qui figure sur la pochette, Émile Théodore Franzen, qui est l'auteur de la toile, encore appelée la fille au bouquet, qui illustra l'album, eh bien cette peinture avait été offerte à Eric Clapton par le fils du peintre lors d'un séjour des musiciens chez eux à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. En janvier 2016, Eric Clapton a été condamné à verser 15 000 euros à la famille du peintre pour avoir réutilisé la reproduction sans son consentement, en 2011 pour le coffret du 40e anniversaire de l'album, Business is Business. Et en 2004, Layla est classée au 27e rang parmi les 500 meilleures chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Enfin, je soulignerai la version acoustique qu'avait réalisée Eric Clapton pour l'émission Unplugged, qui s'était révélée un très grand succès en 1992.
Nobody's waiting by your side.
C'était donc Leila par Derek and the Dominos sur OxyWeb Radio. À sa sortie, Leila, l'album, a été acclamé par la critique et fut considéré comme le plus grand travail de Clapton jusqu'à ce moment-là. À titre d'exemple, l'éditeur Stephen Thomas Erlewine d'Allmusic a fait l'éloge du travail de guitare slide d'Allman, poussant ainsi Clapton dans ses retranchements et surtout vers de nouveaux sommets, et a déclaré « Ce qui fait vraiment de Leila un grand album, c'est que Clapton, rarement dépeint comme un grand romantique, exprime ici une émotion intense et brûlante. » Bref, Leila est enfin le chef-d'œuvre de Clapton, et l'un des meilleurs albums de rock'n'roll des années 70, même si le succès commercial a mis du temps à venir, désormais aujourd'hui il est avéré. Preuve, l'édition très gonflée parue 40e anniversaire, qui est un best-seller. Très gonflé, dis-je, parce qu'au passage, plusieurs rééditions ont été régulièrement faites de cet album et à chaque fois ont permis de découvrir de nouveaux morceaux, de nouvelles versions des morceaux déjà présents sur l'album et à chaque fois montrent la richesse de la session. Je pense d'ailleurs que je ferai une autre émission l'an prochain pour vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. La complicité entre Eric et Duane et les autres musiciens étant exceptionnelle, cet album, en tout cas, ne peut laisser passer que des regrets quand on sait qu'évidemment Duane Allman a disparu si vite, puisque Duane Allman est décédé fin 1971. Sans cela, je suis sûr qu'Eric Clapton n'aurait pas sombré dans l'alcool et les drogues. Au fait, finalement, Patty Boyle, il faut le savoir, a dit oui à Eric Clapton et a quitté George Harrison. Ils vécurent ensemble, en effet, de 1974 à 1988, et puis finalement divorcèrent. Le plus étonnant est qu'Eric et George sont restés néanmoins les meilleurs amis du monde jusqu'à la mort de George Harrison, survenue en 2001. Comme quoi. La semaine prochaine, je vous parlerai de John Lennon et de son fabuleux album Imagine. Comme quoi, c'est vraiment la série. Mais d'ici là, roulez blues.